Alors bonjour à ceux d'entre vous que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vais commencer par une brève prière, si vous voulez bien. Père, tu veux nous bénir par ces moments de communion fraternelle, mais tu veux aussi nous nourrir par ta parole ce matin. Et nous invoquons maintenant ton Saint-Esprit dans cette salle, sur cette communauté et sur chacun d'entre nous, ici présents, pour recevoir ta parole. Nous te prions que cette parole fasse son œuvre en nous, pour que nous puissions faire ton œuvre ici-bas, avant que nous ayons le privilège de partager le royaume que tu nous as réservé à nous et à tous nos frères et sœurs. Nous voulons bénir ton nom ce matin, et nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Amen. Alors, je vous propose de prendre dans Luc au chapitre 12 et à partir du verset 15. On l'a fait à l'ancienne, je ne projette pas le texte. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent se rapprocher du chrétien le plus proche d'eux. C'est probablement un passage que vous connaissez bien. Alors moi, je vais lire dans la traduction Darby, qui est sûrement légèrement différente de celle-là, mais voilà, elle est plus littérale, mais bon, c'est toujours la Bible. Hein. Et puis, elle a, un charme désuet, cette traduction que j'aime bien. Et puis, c'est intéressant aussi de pouvoir comparer les différences entre les différentes traductions. Je trouve ça pas mal. Donc je lis au chapitre 12 à partir du verset 15 de Luc. Et il leur dit, voyez et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Et il leur dit une parabole disant, les champs d'un homme avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et fais grande chair. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Et il dit à ses disciples, « À cause de cela, je vous dis, ne soyez pas en souci pour la vie de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux ? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? » Bon, ça, c'est sûrement différent de ce que vous avez, mais on y reviendra. « Et si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste ? Considérez les lys, comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui est demain jetée au four, combien plus vous vêtira-t-il, gens de petite foi ? Et vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine, car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Donc voilà, c'est le verset 34 où je m'arrête. En synthèse, si nous devenons prisonniers de l'appât du gain, et plus généralement des soucis de la vie, des soucis qui nous accompagnent, alors on passe à côté de notre vie, on passe à côté de la vraie vie que Dieu nous propose. Alors, quand on relit ces mots de Jésus, qu'on connaît finalement assez bien, c'est la conclusion inévitable qui nous vient. Enfin, je pense. Alors, juste en quatre points, si on peut synthétiser ça. « Car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. » Ça, c'est les versets 12 à 15. « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Verset 23. « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Le verset 32. Et les versets 33-34. « Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Le royaume de Dieu, c'est le cadeau le plus merveilleux de tous. Et donc la nourriture, les vêtements, la richesse, la célébrité même, sont tous assez ternes finalement, comparés au royaume de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes peuvent se réjouir du royaume de Dieu parce que c'est notre héritage. Mais avant de ça, on doit remettre à leur juste place la nourriture, les vêtements, l'accumulation des biens. Sinon, on va vraiment passer à côté de l'essentiel. Alors, on est peut-être plus habitué à cet enseignement-là dans Matthieu 6, le fameux serment sur la montagne. Et sur le fond, le message dans Luc, ici, là, il est très similaire à cet enseignement-là. Et c'est probablement pour ça qu'on a l'impression de connaître très très bien ce passage. Sauf que l'enseignement tel qu'il est décrit là dans Luc, tel que je viens de le lire, il est légèrement différent. Et on suppose qu'il a été rendu à un autre moment, en fait, dans le ministère de Jésus. Et donc, c'est cette petite différence qui nous oblige à y regarder avec des yeux nouveaux, à le relire. Alors, on peut commencer par s'arrêter sur les versets 22 et 23, si vous voulez, que je relis. Et il dit à ses disciples, « À cause de cela, je vous dis, ne soyez pas en souci pour la vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Ici, donc, Jésus fait résonner deux paires de mots ensemble, « vie est couplée avec nourriture, et corps est couplé avec vêtement. » Donc Jésus parle bien de la vie terrestre, hein, et comme il parle bien de notre corps physique, charnel. Donc finalement, cet enseignement-là, à nous, Européens du XXIe siècle, c'est un enseignement qui nous semble relativement évident à première vue, si on le prend littéralement. La nourriture est relativement abondante chez nous, et notre vie est occupée à une foule d'activités autres que chercher ou cultiver sa nourriture ou chercher ses vêtements, hein. Alors déjà, à l'époque, dans le contexte, c'était un enseignement qui était un peu plus difficile à entendre, à mon avis. Je dirais qu'il pouvait même paraître choquant, parce qu'il y a 20 siècles, les famines étaient encore courantes, et on s'interrogeait vraiment, au moins pour une partie de la population, si on allait vraiment manger le lendemain. Nous, un peu moins. Et donc, à mon avis, si Jésus vivait aujourd'hui, il n'insisterait peut-être pas sur les mêmes aspects, peut-être qu'il dirait... La vie n'est pas faite que d'écrans, de courses, de réseaux sociaux ou de ménages, ou alors ouais, quelque chose de ce genre-là. En fait, les mots-clés que Jésus utilise ici, c'est « ne soyez pas en souci ». Dans d'autres versions, on a « ne vous inquiétez pas », c'est peut-être ce que vous avez, vous. En grec, c'est le verbe « merimnao », qui peut vouloir dire soit « être anxieux, être soucieux sans raison », soit « s'occuper ou s'inquiéter de quelque chose ». Et on retrouve ce mot deux fois dans le passage, au verset 22. « Ne soyez pas en souci pour la vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. » Et encore au verset 25. « Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ?» Ou dans d'autres versions, probablement ce que vous avez, « peut ajouter une heure à sa vie. » Alors à ce stade où Jésus a annoncé son message, il va commencer à l'illustrer maintenant. Donc au verset 24, c'est ce qui fait « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Et combien valez-vous mieux que les oiseaux ?» Alors, le mot grec qui est utilisé pour « considérer », c'est le verbe « katanoeo », j'ai pas l'accent grec, qui peut vouloir dire « remarquer » ou « observer avec attention ». Et donc, Jésus nous invite, comme il invite ses auditeurs de l'époque, à observer ce qui nous entoure. Encore que je doute qu'aujourd'hui, même les agriculteurs, à l'époque du tracteur 2.0, même les agriculteurs et ceux qui passent une partie de leur temps dans l'extérieur prennent beaucoup de temps à observer la nature qui les entoure. Mais bon, c'est à cela que Jésus nous invite. Lui, il avait dû prendre un peu de temps pour observer ce qui l'entourait. Et maintenant, il attire l'attention de ses auditeurs sur les corbeaux. Alors, les corbeaux, il faut commencer par dire que ce sont des animaux impurs. Les Juifs n'ont pas le droit d'en manger, selon la loi de Moïse. C'est ce qui est écrit en Lévitique 11 et en Deutéronome 14. Alors, on peut le dire qu'ils avaient le droit, de manger des oiseaux purs, donc c'est-à-dire les pigeons et tous les oiseaux qui se nourrissaient de graines. Oui, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas sur le champ de Mars, les pigeons. Ils étaient sûrement moins pollués qu'aujourd'hui. Alors, par contre, les autres oiseaux, ça fonctionnait pas. Donc, les oiseaux impurs, c'était les corbeaux, les rapaces, les vautours, les hiboux. Et là, on se dit, finalement, dans la loi de Moïse, il y a aussi quelques considérations culinaires. Parce que, voilà, le ragoût de hibou, ça doit pas être super. Alors, en pratique, il s'agit des oiseaux qui se nourrissent en tout ou partie de proies ou de charognes. Hein. C'est la raison de cette règle. Donc Jésus vient juste de raconter la parabole du riche insensé qui est prêt à raser ses greniers pour en construire d'autres encore plus grands. Et là, il passe du coq à l'âne, ou plutôt du coq au corbeau, qui, eux, ne sèment pas. Ils ni ne moissonnent, ni n'ont de grenier, ni de cellier de stockage. On peut dire que cet homme riche, qui est un drôle d'oiseau, a tous les atouts, et le corbeau n'en a aucun. Et pourtant, le corbeau dispose de l'atout le plus grand, Dieu. Dieu qui pourvoit lui-même à ses besoins, malgré son impureté. Et finalement, quand on s'inquiète de notre nourriture, on laisse Dieu de côté. Dieu qui nous nourrit comme il nourrit les corbeaux, et même à plus forte raison. À plus forte raison, parce que, comme vous avez remarqué, Jésus rappelle que nous sommes plus importants que les oiseaux. En fait, l'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu nourrit même les oiseaux impurs, est-ce qu'il ne pourvoit pas obligatoirement, enfin, pas obligatoirement, mais nécessairement aux besoins des hommes? Alors, soyons clairs, Jésus ne dit pas qu'il leur remplit une mangeoire tous les matins et que c'est servi sous le bec. Le corbeau passe la bonne partie de sa journée à chercher sa nourriture et à l'engloutir, et voilà, c'est pas non plus une promenade de santé. Et nous non plus, on nous promet pas que Dieu nous déroule le tapis rouge devant nous. Mais en revanche, ce que Jésus dit, c'est qu'on doit s'attendre à ce que Dieu pourvoie à nos besoins. Alors je continue avec les versets 25 et 26. Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Alors, ce que dit Jésus là, c'est que finalement, le souci, ça apporte absolument rien de plus. En se faisant du souci, on n'avance pas d'un pouce de plus. Alors, il nous demande implicitement pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors j'avoue avoir été un peu perturbé par la différence de traduction qu'il y a à ce niveau-là du verset. Ajouter une coudée à sa taille, c'est pas la même chose que ajouter une heure à sa vie. Finalement, le sens général reste le même, hein, mais c'est relativement compréhensible, mais ça mérite une petite explication. Alors, les mots que Jésus utilise dans ce verset sont bien des mots de mesure physique. En grec, le mot péchus, pécus, péros, comme vous voulez. Donc c'est une coudée, donc ça fait 46,5 cm précisément. Et le mot qui est traduit soit par taille, soit par vie, et c'est justement l'ambiguïté, dans les traductions plus modernes, c'est traduit par vie, c'est le mot grec elikia, qui peut donc soit désigner la hauteur, soit la durée de la vie. Alors, peut-être que si aujourd'hui Jésus prêchait en français du 21e siècle, il dirait quelque chose comme « Vous ne pouvez pas rallonger votre vie d'un pouce ». Ouais, enfin, parce que, bon, nous, on n'utilise plus la coudée, mais rallonger d'un pouce, d'un bout d'un mètre. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, quelle que soit la version que vous prenez du verset 25, le sens reste le même. Si s'inquiéter n'apporte absolument rien de plus, pourquoi le faire? Je continue au verset 27 et 28. Considérez les lys, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui demain est jetée dans le four, combien plus vous vêtira-t-il, gens de petite foi? Alors, Dieu a attiré l'attention des auditeurs sur les corbeaux pour commencer, pour illustrer le fait que Dieu pourvoit la nourriture. Et maintenant, pour illustrer le fait que Dieu pourvoit aussi aux vêtements, c'était les deux éléments, il oriente l'attention des auditeurs sur les lys. Alors, en fait, le mot qui est utilisé pour les lys en grec, c'est crinon. Alors, ça, c'est pas forcément des lys, ça pourrait désigner plusieurs variétés de fleurs. Personnellement, ça me choque pas, je sais même pas à quoi ça ressemble, un lys. On ne sait pas si Jésus pensait à une variété de fleurs spécifiques, finalement, dans son enseignement. On pense quand même qu'il était plus sur une variété sauvage, parce qu'il parle des fleurs qui poussent dans les champs. Donc lui, peut-être qu'il pensait à toutes les fleurs qui poussaient dans les champs de Galilée à l'époque, on ne sait pas trop. Alors ça tombe assez bien, l'illustration est facile. Ici, en Loire-Atlantique, on vient de voir le printemps faire éclater les fleurs de toutes les couleurs, dont je ne connais pas le nom. Je suis généralement capable de dire que je les trouve jolies, et pour les noms, je demande à Karen si besoin. Alors, quand on voit déjà dans nos jardins et même dans les parcs un peu étriqués de notre ville, comme c'est magnifique, on peut s'imaginer le spectacle des vallées, des montagnes de Galilée couvertes de fleurs sauvages. Ça devait avoir quand même un aspect assez sympathique. Et bien pourtant, ces herbes et ces fleurs sauvages qui sont tout à fait éphémères, elles sont pourtant mieux habillées que par Dieu lui-même, que Salomon, le roi d'Israël le plus riche, par ses tailleurs probablement. Et Jésus continue en disant « Votre Père sait que vous en avez besoin ». Donc implicitement, ce que ça dit, c'est que « Comment un père qui est riche et bon peut-il, en regardant son enfant, permettre qu'il n'ait pas de quoi se vêtir ?» Finalement, on n'a pas à convaincre Dieu de cette nécessité. C'est ce que ça veut dire. Il la connaît, il en a conscience. Et ça ne sert à rien d'inonder les cieux de vos prières à ce sujet. Il le sait déjà. Et en fait, ce que Jésus, dans les versets suivants, dit, alors là je passe au verset 29-30, c'est que nous ne recherchons finalement pas ce qu'il faut. Donc je lis au verset 29. « Et vous ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine, car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. » Mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, on recherche tous quelque chose, finalement. En fait, aujourd'hui, la plupart des gens sont dans une logique d'accumulation, comme le vieil homme insensé avec ses greniers, là. En tout cas, en France, les gens sont plus dans la recherche de l'accumulation des biens matériels que dans la recherche de la nourriture et du vêtement pour le lendemain. Et donc, c'est finalement à chacun de s'interroger honnêtement sur ce qu'il recherche vraiment, pas forcément sur ce qu'il recherche dans le fond de son cœur, mais plutôt aussi, en tout cas, sur ce que ses actes et ses paroles reflètent au quotidien. On peut être en souci de ce qu'on mange et des vêtements, mais plus souvent, ce qu'on cherche, c'est aussi de quoi payer les factures, le loyer ou rembourser l'emprunt. Mais Jésus dit que cette recherche n'est pas la bonne, ou en tout cas, cette priorité n'est pas la bonne. Nous devrions rechercher le royaume de Dieu. Écoutez à nouveau. Vous ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine, car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est le verset 21, 31, pardon. C'est le verset clé, à mon avis, du passage. Nous devons rechercher son royaume avec toute l'énergie que nous avons pu passer jusqu'ici à rechercher les choses, disons, matérielles. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ou qu'on ne doit pas gagner de quoi subvenir à nos besoins comme tout le monde. La plupart du temps, c'est précisément ce qu'on doit faire. Mais ce que Jésus dit finalement, c'est que nos esprits et nos cœurs doivent être plus concentrés sur le royaume et la gloire de Dieu plutôt que sur cette lutte pour survivre qui n'est finalement que secondaire. Et si on fait ça, Jésus promet qu'il nous donnera de quoi subvenir à nos besoins. La promesse est très claire hein, au verset 31. Recherchez son royaume et ses choses vous seront données par-dessus ou données en plus. Le verbe qui est grec qui est utilisé ici, que je vous épargne cette fois, en fait c'est le verbe ajouter ou additionner. Donc les moyens de subsistance viennent en plus du reste, par-dessus. C'est ce que j'ai moi. C'est le point central ici sur quoi est-ce que vous concentrez vos prières, vos attentes et vos pensées. Est-ce qu'on est tellement distrait par notre survie et qu'on n'est plus concentré sur Jésus et son royaume? Par contre, si vos pensées, vos prières et vos attentes sont tournées vers Jésus et vers son royaume, alors il vous promet qu'il suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. On n'est plus dans Luc, là, on est dans Philippiens au verset 4, au chapitre 4, au verset 19. Finalement, c'est Paul qui écrit aux Philippiens, c'est à peu près les instructions les mêmes qu'il donne aux Philippiens. Quand ils étaient dans le besoin, quand ils étaient dans la lutte ou dans la peur, ce qu'il leur dit, c'est portez votre attention sur ce qui importe vraiment. Donc je vais vous lire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, toujours dans la traduction d'Arby. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Je pourrais bien résumer en disant, concentrez-vous sur les problèmes et les luttes de votre vie, vous obtiendrez seulement de l'anxiété. Mais concentrez-vous sur Dieu, sur ses promesses et sur ses bénédictions, et vous serez inondés de la paix de Dieu. Et on en arrive maintenant à l'autre verset crucial de ce passage, le verset 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alors Jésus appelle ses disciples « petit troupeau ». Donc dans la langue de Jésus, donc l'araméen, comme en grec et comme en français, le côté « petit », en grec « micro », c'est utilisé comme une marque d'affection. On aime bien tout ce qui est petit. Alors en l'occurrence, le troupeau n'était pas si petit que ça, parce que le chapitre commence, je ne sais pas si vous avez remarqué, par « pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres ». Donc, je ne sais pas, c'est possible que cet enseignement soit réservé aux disciples. 12 personnes, c'est quand même un petit troupeau, aux apôtres, pardon. Mais ce n'est pas ce qui semble ressortir du passage. Jésus semble parler à la foule. Et donc, cette foule de quelques milliers reste quand même un petit troupeau, si on le met en rapport avec la multitude des chrétiens qui se sont levés au cours des siècles et encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous et moi, mes amis, faisons partie du petit troupeau qui a un peu grandi. Nous voulons marcher avec notre berger, nous voulons l'écouter, l'imiter, assimiler ses pensées, ses attitudes et sa philosophie de vie. Alors ce qu'il nous dit, c'est « n'aie pas peur ». Cet enseignement de Jésus concerne en grande partie la peur et parfois même la panique qu'on éprouve quand on se concentre sur sa survie. Et voyez comment Jésus en parle, l'inquiétude ou le souci, versets 22, 25, 26. Il qualifie aussi cela de petite foi au verset 28. Et donc sa conclusion c'est « ne crains point ou n'aie pas peur » au verset 32. Phobéo en grec, pour ceux que ça intéresse. La peur. La phobie. Voilà, donc finalement, ce qui est dit, c'est même pas sous-entendu, c'est que nos inquiétudes et nos soucis sont coupables, ce sont des péchés. Notre souci résulte de notre manque de foi, notre incrédulité, ou alors d'un tout petit peu de foi mélangé avec beaucoup d'incrédulité. Et notre inquiétude qui représente la peur, la terreur même qui parfois nous panique, elle est également coupable devant Dieu. Mais dans notre peur, Dieu nous parle et il nous dit « Ne crains pas, petit troupeau. » Et toujours sur le verset 32, la raison donc pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que Dieu nous donne le royaume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le royaume que Dieu nous donne? C'est l'héritage qui appartient au roi des rois, c'est le privilège de régner à ses côtés, c'est la satisfaction de nos besoins, c'est le pardon des péchés que nous avons commis contre le roi et contre son royaume. C'est l'amour total que le roi nous porte, et c'est encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément toujours très bien. Voilà, c'est tout le paradoxe de notre situation, c'est qu'on se bat avec la nourriture, les factures, alors que finalement Dieu nous donne entièrement son royaume, dans lequel se trouvent toutes les bénédictions et toute la gloire de Dieu. Alors que finalement dans le royaume se trouve la réponse à nos besoins actuels et futurs. Donc nous sommes concentrés sur nos besoins plutôt que sur le royaume et sur sa gloire. Finalement, ce royaume est la satisfaction de nos besoins, c'est ce que dit Jésus. Finalement, c'est un peu bête de notre part, hein, parce que c'est aussi assez ingrat vis-à-vis de Dieu d'être aussi aveugle que ça. C'est pas étonnant que Jésus nous rappelle au verset 31 « Recherchez son royaume et ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus, il le voyait de deux façons, le royaume. Il le voyait d'une part présent, tangible, lorsqu'il prêchait et lorsqu'il enseignait et qu'il guérissait. Et il le voyait aussi comme à venir. Par exemple, dans la prière, quand il prie « Que ton règne vienne ». Et pour finir sur ce verset, on peut s'intéresser à un dernier mot, c'est le verbe « plaire », car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ça veut dire que Dieu n'a pas partagé son royaume en râlant un peu. Non, Jésus dit que Dieu prend plaisir à nous donner son royaume. C'est sa joie de nous le donner. Il a attendu de toute éternité de le faire, et maintenant qu'il l'a fait, sa joie déborde. Et je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que finalement Dieu prend plus de plaisir à nous donner ce royaume que nous à le recevoir. Et maintenant, je voudrais vous demander comment réagir à ce cadeau inattendu, à ce cadeau énorme du royaume. Eh bien, c'est écrit. Vendez ce que vous avez, au verset 33, et donnez l'aumône, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas. Alors, on est tellement concentré sur nous-mêmes et à nous assurer une bonne vie ici-bas qu'on ressemble clairement davantage aux riches insensés qu'aux disciples pleins de foi. Mais finalement, quand Dieu est tellement généreux avec nous en nous offrant son royaume, ce que Jésus dit, c'est qu'on peut se permettre d'être généreux. Pourtant, on est plutôt en train de se cramponner à nos possessions comme une moule à son rocher, en général. Mais finalement, une fois qu'on a pris conscience du cadeau de Dieu, on peut regarder autour de nous et on peut s'intéresser aux besoins des autres. si on a plus que le nécessaire, donc on peut même le vendre et donner les biens aux pauvres. Alors c'est pas la logique terrestre, hein, on est bien d'accord, c'est plutôt la logique divine. C'est-à-dire que Jésus dit que ça rapporte des trésors au paradis. Pas ici. Alors on est riche aux yeux de Dieu, à l'inverse du riche insensé qui avait tout, mais en réalité ne possédait rien du tout. Donc voilà, vous croyez que vous avez reçu le royaume? Eh bien, de quelle manière est-ce que cela modifie votre relation quotidienne aux choses matérielles, à la richesse et à la survie même? Et donc si finalement ça change rien du tout à votre façon de voir les choses matérielles, c'est peut-être que vous ne croyez pas vraiment avoir reçu le royaume, je ne sais pas. Je finis avec le verset 34, qui était le dernier verset du passage. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc c'est la conclusion de Jésus. Il conclut en fait sur une question qui est posée à chacun. Alors parce que c'est pas posé sous forme de question, mais je pense que ça interpelle chacun et chacun peut légitimement se poser la question. Quel est votre vrai trésor? Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui mobilise votre temps? Dans quel monde vivez-vous? Est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu déjà? Est-ce que vous avez accepté l'invitation de Dieu à venir dans son royaume? Voilà, bon, je vous pose également la question. Où est votre trésor, les amis? Je vais prier si vous voulez. Père, j'ai vécu une grande partie de ma vie en tournant le dos à la richesse et à la paix de ton royaume. J'ai vécu comme s'il n'y avait pas de lendemain, je me suis fait du souci, j'ai eu peur, souvent. J'ai pas fait confiance dans tes promesses et j'en ai honte. Je te prie de me pardonner, je sais que tu vas me pardonner. Je veux vivre maintenant et à jamais dans ton royaume. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.